Radio Prague, les informations. Bonjour. La social-démocratie exige que le gouvernement présente le plus vite possible le traité de Lisbonne aux législateurs. Une petite fille de quelques heures a été déposée samedi soir dans un baby-box de Prague. Et enfin, le trafic d'avions au-dessus de la République tchèque a plus que doublé depuis le début de l'an 2000. Le Parti social-démocrate, principale formation de l'opposition, exige que le gouvernement de coalition dirigé par Mirek Topolánek présente le plus vite possible le nouveau traité européen adopté jeudi à Lisbonne aux législateurs en vue de sa ratification. Les socialistes tchèques, qui se félicitent de la signature du traité de Lisbonne remplaçant l'ancienne constitution, soupçonnent le cabinet et notamment le Parti civique démocrate, principale formation de la coalition tripartite, de vouloir compliquer et ralentir le processus de ratification. Le vice-premier ministre chargé des affaires européennes, Alexandra Vondra, a réagi en ses propos en affirmant que le texte sera présenté au Parlement en début d'année prochaine et que le gouvernement n'entendait ni retarder ni accélérer sa ratification. Une petite fille née quelques heures auparavant a été déposée samedi soir dans un baby-box à Prague situé dans le quartier de Hloubětine. Il s'agit du 10e enfant trouvé depuis la mise en place du système de boîtes à bébés en République tchèque en juin 2005. Ces baby-box sont destinés aux mères en situation de détresse qui peuvent y déposer leur nouveau-né anonymement et ce afin que celui-ci ne soit pas tué ou abandonné dans des conditions ne permettant pas sa survie. Selon le personnel médical de Prague-Hloubětine, la petite fille déposée samedi est en bonne santé et pourrait être placée dans une famille d'accueil d'ici à Noël. Un plan d'action contre la violence domestique devrait voir le jour prochainement en République tchèque. Ce plan sera préparé par la nouvelle commission pour la prévention de la violence domestique, commission créée lors du Conseil des ministres pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. C'est ce qu'a indiqué la ministre en charge des droits de l'homme et des minorités, Jamila Sterlikova. Depuis juin 2004, la violence domestique est considérée comme un acte délictueux en République tchèque. Par ailleurs, depuis cette année, la police peut également expulser de leur domicile pour une période de 10 jours les personnes au comportement agressif à l'égard de leurs proches. Dans ce nouveau plan, qui vise à renforcer les mesures déjà existantes, l'accent sera notamment mis sur la protection des enfants. Le trafic d'avions au-dessus du territoire de la République tchèque a plus que doublé depuis le début de l'an 2000. Tandis que 308 000 appareils étaient passés dans le ciel tchèque lors de la première année du troisième millénaire, ce chiffre devrait s'élever à 635 000 à la fin de cette année. Ces statistiques proviennent des données actuelles de l'administration du trafic aérien. Cette augmentation est essentiellement due à l'avènement des compagnies low-cost en Europe centrale. On termine avec un mot de météo. Comme dimanche, c'est de nouveau un temps sec et froid qui règne sur l'ensemble du territoire lundi, jour de la fête des Daniels, selon le calendrier local. Le ciel se dégage dans le courant de la journée et les températures se situent entre moins 3 et 1 degré pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Ah,
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, Alfred Kubin n'est pas né avec le siècle selon la formule consacrée, mais il est bien né avec la fin de son siècle, dans l'atmosphère si particulière de la fin des années 1800. Ce fameux fin de siècle, une expression fourre-tout, mais bien commode, où l'on peut indifféremment retrouver la psychanalyse, l'art nouveau, les débuts de l'automobile ou du cinématographe, les suffragettes, les corsets de ces dames et les hautes formes de ces messieurs. C'est dans ce chaos entre tradition et modernisme que voit le jour en 1877 Alfred Kubin, dans la ville du nord de la Bohême, Litoměřice, qu'on appelait alors encore Leitmeritz, dans l'Empire austro-hongrois. Il s'inscrit ainsi dans la longue liste d'artistes autrichiens nés sur le territoire de l'actuelle République tchèque. D'ailleurs, son nom de famille est bel et bien à consonance tchèque. Fils d'un officier géomètre, toujours sur les routes, marqué par le décès de sa mère à 10 ans, de faible constitution, il grandit dans un monde de solitude et de marginalité, accentué par les violences de son père. Après une tentative de suicide ratée, il s'engage dans l'armée où, victime d'un délire, il finit par être réformé. C'est alors qu'il s'inscrit dans une académie de dessin à Munich et commence à découvrir des artistes qui bouleversent son existence. L'art allemand et autrichien suscite traditionnellement peu d'intérêt en France, presque comme s'il n'existait pas. Mais les temps changent peu à peu et la découverte des expressionnistes autrichiens comme Schiele est d'ailleurs très récente. Exposer Alfred Kubin et ses chimères était donc un pari pour le musée d'art moderne de la ville de Paris, un pari relevé notamment par la commissaire de l'exposition Dominique Gagneux.
C'est une œuvre à découvrir et aussi un artiste, une personnalité d'artiste extrêmement curieuse, extrêmement fascinante, tout autant d'ailleurs que ses dessins. Donc en fait déjà, cette première remarque, c'est un dessinateur. Il a commencé à dessiner à la fin du 19e siècle, dans les années 1898-19. Là, il a une première période, il va durer assez peu de temps, puisqu'en fait elle se termine en 1904-1905, au cours de laquelle, vraiment pris d'une véritable frénésie créatrice, il va dessiner des centaines de dessins qui représentent en fait ses pulsions, ses rêves et ses angoisses. Et il va pour cela donc utiliser la plume et l'encre de Chine, donc ce sont des œuvres en noir et blanc, et un papier qui était celui qu'il récupérait de son père, qui était au cadastre. Et donc ce sont des papiers, des feuilles de papier du cadastre autrichien, au revers desquelles donc il a dessiné ces images absolument étonnantes, fascinantes.
Alfred Kubin s'inscrit dans une tradition d'artistes dont les œuvres relèvent du monde fantastique, où le morbide le dispute au grimaçant, où le monstrueux côtoie l'étrange. Jérôme Bosch, Odilon Redon, Arnold Böcklin, connus ou moins connus, ces noms sont à mettre côte à côte avec celui de Kubin. Impossible donc de ne pas le rapprocher aussi d'un autre de ses contemporains, lui aussi à l'âme tourmentée, dira-t-on pour faire court, et lui aussi artiste de langue allemande, mais originaire de Bohême. Franz Kafka. Les deux hommes se rencontrent à l'automne 1911, mais de cette rencontre, ce qu'en retient l'auteur du château, ce ne sont guère que les conversations de deux hypochondriaques. Dominique Gagneux.
Oui, il a rencontré Kafka. Alors c'est peut-être pas l'auteur avec lequel il a été le plus lié d'une façon affective. Il n'empêche que Kafka s'est inspiré du roman que Kubin a lui-même écrit et publié en 1909, qui s'appelle L'autre côté. Alors ça aussi, c'est un aspect tout à fait intéressant de l'œuvre de Kubin, c'est qu'il avait été contacté pour réaliser des illustrations d'un roman fantastique qui était en gestation à l'époque et qui était le roman de Gustav Mehring, qui s'appelle Le Golem, dont l'action se passe dans le ghetto de Prague. Kubin donc a commencé à réaliser ses illustrations. Il attendait que Gustav Mehring lui fournisse le texte, qui avait du mal à venir. Et du coup, Kubin s'est dit, moi-même je vais écrire un roman fantastique, qu'il a écrit très rapidement, et dont il a récupéré les illustrations qu'il avait prévues pour Le Golem, pour son propre ouvrage, qui a eu un succès tout à fait phénoménal. Il a dessiné Le Golem selon la description qu'en fait Gustav Mehring au début, en tout cas, du roman. Et ensuite, on le retrouve dans L'autre côté, représentant en fait une race d'hommes, qui sont les hommes aux yeux bleus, voilà, et qui sont des personnages du roman de L'autre côté.
Il est presque stupéfiant de voir combien ce tournant du siècle a été un concentré de névroses et de malaises qui ont fait parvenir jusqu'à nous l'image d'artistes souffrant dans leur être et l'idée d'une grande fragilité d'une société qui, par ailleurs, donnait à voir tous les atours de la stabilité. Or, ce sont finalement des artistes comme Kubin qui sont des thermomètres de la société. Et la guerre de 14-18 et l'effondrement d'un ordre qui paraissait immuable leur donneront raison. Dominique Gagneux.
C'est vrai qu'il baigne dans ce climat d'atmosphère déliquescente, en fait, de la fin de l'Europe de la fin du 19e siècle. C'est vrai qu'il a été lui-même frappé, il le dit, par les eaux fortes de Max Klinger. Il aime beaucoup von Stuck. Il regarde absolument du côté des symbolistes. Il prend ses racines dans l'univers symboliste, à la fois pictural mais aussi littéraire. Même l'importance du rêve a été déjà beaucoup dégagée en fait dès le 19e siècle. Il y a eu pas mal d'études sur le rêve qui ont été publiées dans la deuxième moitié du 19e siècle. Kubin aussi s'inscrit dans une veine romantique en effet qui aussi met en avant le fantastique et le rêve. Puis bien sûr la psychanalyse naissante. Kubin était très au fait des études de la psychanalyse.
Si Kubin a dessiné toute sa vie, son œuvre apparaît comme dégageant une force et une expressivité en dents de scie, avec un net pic justement au tournant du siècle. Dominique Gagneux évoque les thèmes récurrents abordés par Alfred Kubin.
En fait, c'est très complexe. On retrouve la mort, déjà, sous toutes ses formes. Sous la forme d'un squelette, très généralement. Sous la forme également d'une femme, très souvent. Il y a une gravure, là, cette fois-ci, qui représente le meilleur médecin. Vous avez la mort qui est en fait sous les figures d'une femme, qui ferme les yeux d'une autre femme qui est allongée. Il y a la maladie. Il faut dire que Kubin avait été impressionné par la mort de sa mère, qu'il a perdue quand il était très jeune. Il a comme ça eu tout un ensemble de traumatismes dans son enfance et dans sa jeunesse, qu'il a d'ailleurs tout à fait bien raconté dans son autobiographie qui s'intitule « Ma vie », dans laquelle il nous donne un certain nombre de clés pour comprendre son œuvre. Alors à condition que ces clés ne soient pas des inventions, parce qu'il est évident que Kubin joue beaucoup avec toutes ces notions psychanalytiques. Il a beaucoup dessiné aussi la campagne environnante, il a beaucoup dessiné des œuvres inspirées, sorte de turquerie, des œuvres inspirées d'ouvrages qu'il avait lus quand il était enfant, parce que là aussi, c'est une des composantes fondamentales de cette œuvre, c'est la volonté de retranscrire en permanence et jusqu'à la fin de sa vie les impressions qu'il a eues quand il était enfant.
L'enfance, une des clés de la création de Kubin, une des clés de sa compréhension aussi. L'enfance est en effet ce territoire sauvage dont parle l'intitulé de l'exposition du Musée d'Art Moderne, Souvenir d'un pays à moitié oublié. Ce très beau titre est en fait tiré du nom d'un essai rédigé par Alfred Kubin sur son inspiration créatrice et qui faisait référence à un ouvrage qu'il avait reçu enfant et qu'il avait profondément marqué. Mais chez Kubin, l'enfance est aussi ce monde de souffrance qu'il a poursuivi entre un père violent, une mère disparue trop tôt, des belles-mères qui se sont succédées. La souffrance et les traumatismes ne sont toutefois pas la seule source d'inspiration de Kubin. Il sait aussi observer ce qui l'entoure et est spontanément porté vers le surnaturel imaginé de certains mondes.
Il a beaucoup fréquenté la forêt de Bohême, il s'est beaucoup promené dans cette forêt et il s'est beaucoup intéressé aux contes et légendes de cette région qu'il a d'ailleurs illustré. C'est là qu'il se rapproche évidemment de beaucoup d'artistes de son époque et de son temps, justement dans cet intérêt qu'il a eu pour l'art populaire, autant que d'ailleurs que pour l'art des fous. Il disait, ces forêts sont encore peuplées de lutins, et ça lui plaisait bien, donc le côté imagination, le côté fantaisiste.
Apolitique, hors du temps, Alfred Kubin apparaît comme retranché dans un monde imaginaire clos, mais qui pourtant exprime un air du temps dont on n'est pas sûr d'avoir toujours envie de le connaître. Car tout comme il est difficile de décider d'aller s'étendre sur le divan d'un psy, il n'est pas sûr que l'on ait envie de savoir combien le monde qui nous entoure peut sécréter d'horreur. Et le succès que Kubin peut avoir aujourd'hui ne peut que laisser songeur.
Kubin est un artiste extrêmement moderne aujourd'hui, alors qu'il a cultivé cet anachronisme jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'en 1959, il dessine des Napoléons, il dessine des généraux de l'armée austro-hongroise, et en même temps, aujourd'hui, il a été redécouvert ou découvert, ou en tout cas exploré par des artistes comme Topor. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de jeunes artistes s'intéressent à Kubin, même ne le connaissant pas, en fait, le découvrent dans l'exposition et en fait font des rapprochements avec beaucoup d'illustrateurs de bandes dessinées notamment. Il plaît beaucoup déjà au public, qui est un public qui a un certain œil, qui a l'habitude de venir voir des expositions, des collectionneurs. C'est-à-dire que même si Kubin n'est pas connu d'eux, tout de suite, il y a des résonances immédiates. Je pense qu'il y a deux façons d'aborder Kubin. La première, c'est peut-être une manière plus intellectuelle, qui est en fait de le replacer justement dans ce contexte fin de siècle, ce contexte autrichien, dans ses rapports avec le symbolisme, avec des artistes allemands, des artistes de la Renaissance allemande, des romantiques, puis ses contemporains, hein. Et puis il y a une façon peut-être plus impulsive, pourrait-on dire, où il y a des visiteurs qui m'ont dit « mais j'ai ces cauchemars-là, voilà, je comprends tout à fait, c'est un univers dans lequel je rentre tout de suite et d'une façon immédiate ».
L'exposition Alfred Kubin, souvenir d'un pays à moitié oublié, au musée d'art moderne de la ville de Paris, s'achèvera le 13 janvier 2008. Fin de Culture sans frontières. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette rubrique sur le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Alain Slivinsky.
Bien, cette édition de notre balade touristique en Tchéquie sera consacrée aux possibilités de jouer au billard. C'était un jeu ou un sport qui n'était pas très bien vu sous le régime communiste, mais qui connaît une grande renaissance aujourd'hui. Les salles sont de plus en plus nombreuses, et les compétitions aussi. Nous allons donc faire un tour dans quelques salles à Prague. L'une des plus prestigieuses salles de billard se trouve dans le bâtiment de la maison municipale de Prague, en plein centre historique de la capitale, à côté de la tour Poudrière. C'est l'un des plus beaux bâtiments de l'art nouveau pragois. La salle de billard était jusqu'à maintenant la plus grande salle qui était fermée au public. Elle servait seulement à l'organisation de grandes soirées dansantes ou de réunions de sociétés privées. À partir de l'année prochaine, elle sera ouverte au public et tout un chacun pourra venir y faire une partie de billard. Tomasz Vacek, le nouveau directeur de la maison municipale, est persuadé que les amateurs de billard, mais aussi de jeux de société, seront nombreux du fait qu'à côté de la salle de billard se trouvent des salons de jeux de cartes. Il ne craint pas non plus que les salles et leur mobilier soient endommagés, car toute la maison municipale est sous la surveillance de caméras. En plus de cela, les tables de billard ne sont pas les tables originales, mais des copies. Nous ne pouvons que vous recommander, l'année prochaine, de passer une bonne après-midi après un bon déjeuner dans l'un des grands restaurants de la maison municipale en faisant une partie de billard ou de cartes dans ce prestigieux bâtiment pragois. Si vous avez envie de vous consacrer au jeu, même pendant toute une journée, nous ne pouvons que vous recommander de la passer au centre Megasport. Il se trouve dans le quartier de Chodov, 4e arrondissement de Prague. C'est au sud-est de la capitale et vous pouvez y accéder facilement soit par le métro ou par la voie rapide qui traverse Prague en direction de Brno. Le centre porte bien son nom car il s'étend sur 1100 mètres carrés. Il vous offre toutes sortes de jeux, dont le bowling, dont nous avons déjà parlé dans cette rubrique, avec 4 pistes professionnelles. Les amateurs de billard ont 22 tables de grande classe à leur disposition. Ce sont des Gabriels, mais surtout des Cannonballs, et le revêtement est le plus souvent du Simonis. Vous pouvez pratiquer tous les jeux, carambole, poule, snooker ou la pyramide russe. L'immense salle de billard est ouverte tous les jours, de 10h à 1h du matin. L'intérêt pour le Megasport de Chodov est énorme et nous vous recommandons encore de réserver à l'avance. Vous pouvez aussi le faire online par l'intermédiaire du web. Pour les amateurs, lors d'un séjour à Prague, c'est une des meilleures occasions de passer une belle journée et de bien se restaurer aussi dans les restaurants des environs. Un autre grand centre de sport vient d'être ouvert dans le quartier du centre commercial de Tcherny Most, au nord-est de la capitale. Lui aussi se trouve à proximité du métro et de l'axe routier qui conduit vers Mlada Boleslav ou Hradec Králové. Il offre une dizaine de tables de billard. Pourtant, la plus grande salle de billard de la République tchèque se trouve à Prague, dans le premier arrondissement. C'est le Billard Centrum. Il offre 28 tables de billard professionnelles et des plus grandes marques. Le centre est ouvert tous les jours de 11h à 2h du matin. Il est bon de réserver à l'avance, surtout aux alentours des fêtes, car l'intérêt est énorme, vu que le Billard Centrum, comme son nom l'indique, se trouve vraiment en plein centre de Prague. Le nouveau centre commercial Palladium se trouve aussi dans le centre historique. Il vient d'ouvrir ses portes en face justement de la maison municipale dont nous avons parlé. Si vous allez faire un tour là-bas, arrêtez-vous par exemple au magasin Svet & Her, le monde des jeux, pour voir un peu ce que vous offre le marché tchèque en matière de billard. Peut-être emporterez-vous des boules de billard en souvenir. Puisque nous parlons des tables professionnelles qui équipent un peu toutes les salles de billard de Prague, nous devrions parler aussi de l'organisation qui s'occupe de l'organisation des tournois professionnels ou amateurs. Il s'agit de l'Union tchéco-morave de billard, CMBS, qui est une association civique et qui s'occupe de tout ce qui a trait au billard en République tchèque, où il existe dans les 130 clubs. Cette union organise les tournois et les compétitions sur le plan national ou international. Elle est membre des associations et organisations de billard international. Cela permet aux joueurs tchèques de participer aux championnats du monde et d'Europe. Les amateurs du billard espèrent d'ailleurs que ce jeu, qui est devenu un sport pour certains, sera reconnu par le Comité international olympique et fera donc partie des Jeux olympiques dans un proche avenir. Cela contribuerait énormément au développement du billard en Tchéquie et dans le monde. Pour l'instant, nous n'avons parlé que du billard classique, celui que nous trouvons dans un grand nombre de cafés français encore aujourd'hui par exemple. Pourtant, si vous venez passer un séjour en Tchéquie et que vous alliez faire un tour à la campagne, vous pourriez trouver un autre genre de billard, surtout dans les petits cafés des villages à la campagne. La table est bien plus petite, elle a les dimensions d'un flipper à peu près. Le revêtement est aussi de couleur verte. Pourtant, il y a une grande différence avec le billard classique. En haut de la table se trouvent de petits champignons de bois. Il faut dire que les amateurs étaient nombreux avant que ne réapparaisse le grand billard classique. On l'appelle souvent billard russe, mais en vérité, il n'a rien à voir avec celui-ci. Ce que vous ne trouverez pas souvent dans les cafés campagnards, à la différence d'autres pays d'Europe occidentale, c'est le footing. On en trouve, mais surtout dans les salles de jeu des villes. En Tchéquie, il n'a jamais été aussi populaire qu'en France, alors que le billard l'était sous la Première République. Il fut délaissé sous le régime communiste, considéré comme un jeu ou un passe-temps « bourgeois », entre guillemets, et aujourd'hui, il vit une véritable renaissance dans tout le pays. Et c'est ainsi que prend fin notre coin touristique de cette semaine sur les ondes de Radio Prague. C'est aussi la fin de notre émission.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.